Votre boulangerie est un succès. Vos croissants se vendent comme des petits pains, vos pâtisseries régalent les gourmands, vos baguettes s'arrachent et la paperasse s'entasse. Bref, vous avez du pain sur la planche.
Avec votre espace client EDF Pro, consultez vos factures et vos contrats, communiquez vos relevés d'index et payez en ligne votre consommation réelle. Créez vite votre espace client pro sur edfpro.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La France a donc un nouveau président. Depuis ce matin, vous pouvez suivre sur Europe 1 les différents épisodes de la passation de pouvoir et de l'entrée en fonction de François Hollande. Et Franck Ferrand a choisi de modifier un tout petit peu son programme pour s'adapter à cet événement, évidemment. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On a beaucoup entendu depuis une semaine maintenant que François Hollande était le deuxième président socialiste de la Ve République. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant 1958, il y avait déjà eu à l'Élysée un président socialiste. Cela se passait juste après la guerre et ce président s'appelait Vincent Auriol. Et je trouve injuste que cette figure de la Ve République soit aujourd'hui oubliée de la plupart des Français, car Vincent Auriol, comme on disait souvent à l'époque, ancien député de Muret en Haute-Garonne, était un personnage sympathique et un personnage très important pour la notion même de fonction présidentielle. Nous allons essayer de vous le faire mieux connaître cet après-midi en compagnie de Guillaume Perrault.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors hier, à propos des maladies des présidents, j'ai commencé mon récit en vous parlant de ces fameuses, de ces inoubliables journées du Congrès qui, dans le cadre soudain enfiévré du château de Versailles, permettait aux parlementaires, on est là avant 1962 et l'élection du président de la République au suffrage universel, permettait donc aux députés et aux sénateurs d'élire les présidents de la République. Eh bien, nous commençons au même endroit aujourd'hui, dans le même cadre. Nous sommes à Versailles, dans le grand hémicycle construit par Edmond Joly dans l'aile du midi du château. Il règne un brouhaha terrible, une sorte de transe en ce 16 janvier 1947. Les tribunes croulent sous le poids des journalistes, des photographes. Tous les parlementaires sont là présents, évidemment. Les bureaux des deux chambres sont au grand complet. Ces messieurs, attention, portent le frac, hein, la queue de pie. Seul le président de l'Assemblée s'est distingué par sa tenue vestimentaire. Lui n'est pas en jaquette, il porte plus simplement un veston bleu et une cravate grise. Voilà une entorse que nous trouverions, nous, aujourd'hui sans doute assez sympathique, en somme. Une entorse qui traduit d'emblée la personnalité de cet élu du Sud-Ouest. Monsieur Auriol, c'est lui. Alors le scrutin commence, les députés, les sénateurs défilent à la tribune pour voter. Parmi eux, 11 députés noirs, acheminés d'Afrique tout exprès par les soins du ministre des Travaux publics, Jules Moc. 11 députés qui vont, semble-t-il, emporter l'élection, puisque celle-ci va se jouer à 10 voix près. Au tour de scrutin décisif, le candidat Auriol, avec sa famille, c'est un homme de famille, j'allais dire de clan, ce serait un mauvais procès à lui faire, mais c'est un homme de famille, Vincent Auriol. Il est là avec même ses petits-fils, Jean-Paul et Jean-Claude, qui respectivement ont 8 et 6 ans. Il attend le verdict de l'urne dans un appartement tout près du salon Marengo où traditionnellement se fait la proclamation de chaque élection présidentielle. Cette fois, c'est le vice-président de la Chambre, le communiste Jacques Duclos, qui vient annoncer le résultat. Je dis le communiste vice-président de la Chambre, et oui, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et le Parti communiste joue un rôle très important dans la vie parlementaire de l'époque. Duclos est donc là pour annoncer le résultat. Il se lance dans une sorte de proclamation pleine d'emphase à laquelle le président de la République, nouvellement élu, répond par quelques mots tout simples, dont on a surtout retenu les phrases suivantes. « Je vous avertis loyalement, je ne resterai pas cloîtré dans la maison où vous allez m'emmener. Comme j'ai déjà été en prison, je saurais bien faire des trous dans le mur. » J'ai déjà été en prison, dit le nouveau président Auriol. Et oui, il fait allusion aux événements de 1940. Nous allons y revenir dans un instant. Est-ce que Vincent Auriol se rappelait cette bohémienne qui un jour lui avait promis 7 années de prison avec beaucoup d'honneur? À l'époque, ça l'avait beaucoup surpris, cette prédiction. 7 années de prison avec beaucoup d'honneur? Belle définition, somme toute, de l'Élysée selon Vincent Auriol. En attendant qu'on se le dise, le nouveau président ne sera pas un gentil chef de l'État bien docile. Il ne se contentera pas, selon l'expression du général de Gaulle, d'inaugurer les chrysanthèmes. Mais entre nous, qui était-il, ce sacré Vincent Auriol, et d'où venait-il? Quand il entre à l'Élysée, c'est un homme de 63 ans, pas très grand, plutôt râblé, avec un crâne presque chauve, un visage ovale, fiché de traditionnelles lunettes d'écaille toutes rondes, une amorce de moustache, un rien de double menton. Oh, finalement, un Français moyen, doté d'une sorte d'élégance naturelle. Je vous lis le portrait qu'en trace France Soir. France Soir, c'est le grand quotidien de l'époque. Et voilà ce que dans son édition spéciale pour l'élection du président, on peut lire concernant Vincent Auriol. « Une figure un peu ronde de brave rentier, écrit le chroniqueur, des lunettes de bon artisan, peu de cheveux sur un crâne qui luit, l'air bourru mais bon enfant, une petite moustache coupée court, une pointe d'accent. » Il était né en Haute-Garonne, ce Vincent Auriol, à Revel, en avril 1884, et c'est entre Toulouse et Mazamé, hein, Revel. Donc vous voyez, on est dans cette région du Cassoulet, si je puis dire. Je reprends les termes mêmes d'une historienne fameuse de l'Élysée, Huguette Boussan. « Il devait, écrit-elle, tout enfant, perdre l'œil gauche pour avoir mal ajusté la détente d'un pistolet à amorce que son grand-père lui avait rapporté de la ville. Fils de boulanger, il se plaisait à rappeler qu'à la faveur des vacances scolaires, il allait livrer le pain aux clients de son père. » Il fit à Toulouse de solides études de droit et de philosophie. Ce travailleur obstiné n'allait pas tarder à se lancer dans la vie politique. Et cette carrière politique, il la doit essentiellement à Michel Aucouturier, qui était un ouvrier verrier très versé dans le syndicalisme, un ami de Jaurès, un homme, d'ailleurs un bon tribun lui-même, un homme extrêmement actif et qui aussi, et j'ai envie de dire quand on va voir l'importance du personnage, d'abord sera le beau-père de notre Vincent Auriol, puisque finalement Vincent Auriol épouse l'une des deux filles de ce maître verrier. Elle s'appelle Michèle Aucouturier. Elle aura un rôle et une place de choix dans la vie présidentielle, dans la nouvelle vie du nouvel Élysée.
Sur un pain de petites fleurs de Sidney Béchette, retrouvons maintenant Franck qui met un coup de projecteur sur une figure de la 4e République, le président Vincent Auriol.
Alors tout à l'heure, en compagnie de mon invité, je vais revenir sur la carrière politique qui a mené tranquillement, j'allais dire, Vincent Auriol jusqu'à l'Élysée. J'aimerais insister tout de suite sur la conception très haute que le président, malgré les termes de cette constitution de la 4e République qu'il a pourtant largement contribué à mettre au point, cette conception que le nouveau président se fait de ses fonctions. L'un des grands biographes des présidents de la République, Adrien Dansette, disait que Vincent Auriol avait, d'une part, profité de ce que plusieurs majorités étaient possibles pour procéder à des désignations qui n'étaient pas toujours compatibles avec les indications récentes du suffrage universel. Voilà une phrase bien diplomatique pour dire qu'en fait, Vincent Auriol a joué un rôle majeur dans la désignation des présidents du Conseil, alors que la Constitution, officiellement, ne lui donnait pas ce pouvoir-là. Il a refusé à plusieurs reprises la démission de président du Conseil, qui n'avait pas été mis en minorité selon la procédure constitutionnelle. Ça a été le cas pour Schuman à l'automne 48, pour Pleven à l'automne 50, pour Queuil au printemps 51. Et puis surtout, il a su exercer sur les groupes parlementaires une sorte de pression particulière. Il utilisait pour cela ce qu'on appelait les communiqués de la présidence et qui vont bientôt constituer autant d'appels à l'opinion. Le directeur de cabinet du président Auriol s'appelait Jacques Kosciusko-Morizet. C'était le grand-père de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Et ce directeur de cabinet va constituer avec lui une sorte de tandem extrêmement actif qui va contribuer à donner au chef de l'État une place très importante dans des institutions qu'il n'en avait pas prévu autant. Le devoir du président n'est pas seulement de diriger les débats, écrit Vincent Auriol. Il peut y avoir des désaccords fondamentaux sur les grandes questions d'intérêt national. Il faut alors concilier ces désaccords, apaiser les tempéraments, arbitrer entre les diverses opinions. Mais mes conseils s'arrêtent au seuil de la décision. Je n'ai pas le droit de décider. J'ai le devoir d'avertissement et de conseil simplement. Alors, à quoi ressemblait une journée de Vincent Auriol à l'Élysée? C'est ce que nous allons tâcher de voir. Il faut savoir qu'il se levait très tôt déjà et qu'il préparait lui-même le café au lait qu'on lui avait, qu'il le faisait réchauffer, ce café au lait qu'on lui avait préparé la veille. Il disait « Ces heures de travail du petit matin sont les meilleures de la journée ». Et puis à 7h30, eh bien, il descendait par un escalier à vis qui se trouvait caché derrière un grand paravent. Il descendait jusqu'au bureau du rez-de-chaussée qui avait été le bureau du président Poincaré. Et là commençait la véritable journée de travail. Il faut vous dire qu'à cette époque, à l'Élysée, tout était à refaire, tout était à réorganiser, bien entendu. Je ne parle même pas des locaux. Hein. L'une des premières décisions de Vincent Auriol quand il arrive à l'Élysée, c'est de démonter ce qu'on appelait la cage aux singes, c'est-à-dire l'espèce de grande véranda qu'avait fait installer Sadi Carnot sur le perron de l'Élysée, qui masquait la moitié de la façade côté cour et qui était assez hideuse, à vrai dire. On enlève ça, on retire également la marquise Napoléon III côté jardin. Dans l'ovale de la cour d'honneur, on enlève les anciens réverbères en fonte qui étaient assez pitoyables et on installe de grandes lanternes en verre et en bronze doré. Enfin, le décor élyséen tel que nous le connaissons, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent au général de Gaulle, qu'on le doit. C'est en très grande partie à monsieur Auriol et à madame Auriol. Parce que là, évidemment, madame Auriol joue un rôle très important. C'est une femme extrêmement élégante, avec un sourire magnifique, Madame Auriol, Madame Vincent Auriol. Elle est toujours vêtue de robes de chez Dior, de chez Jacques Fatt, de chez Gray. Elle sait divinement recevoir, car l'Élysée, sous cette présidence, acquiert la dimension de vitrine nationale qui sera la sienne sous le régime suivant. Et puis elle voyage aussi beaucoup avec son mari. Il ne faut pas oublier ses voyages aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique, autant de voyages qui ont été de grands succès. Ce qu'il faut dire et comprendre, c'est que les Auriol vivent à l'Élysée et qu'ils y vivent en famille. Ils sont venus, alors ils sont eux-mêmes résident sur place, et ils ont avec eux leur fils et leur belle-fille. Ça joue un rôle tout à fait important parce que, le fils du président contribue avec les petits-enfants évidemment à mettre de la vie dans la maison. Mais la belle-fille n'est pas n'importe qui, c'est la célèbre Jacqueline Auriol, la femme la plus vite du monde, comme titrait la presse de l'époque. C'est cette femme passionnée d'aviation, qui va d'ailleurs connaître un accident d'aviation assez grave en 1949, et qui est une sorte de héros national. Elle a épousé depuis longtemps la cause féministe et elle incarne ce qu'il peut y avoir de plus moderne et de plus sportif dans la jeune femme des années, tout début des années 50. Alors son beau-père, évidemment, n'est pas très emballé, lui par l'idée de voir sa belle-fille aviatrice. Quelle idée, bougonne-t-il, et quelle époque. Pour une mère de famille, je ne connais qu'un seul sacerdoce, torcher ses moutards. Allons bon, je vous disais que le président Auriol était un président sympathique. J'ai bien peur qu'avec cette citation, je ne vous le rende un peu désagréable, mais il était comme ça, faussement bougon, toujours un peu ronchon, comme dirait Jean Tullard, mais à côté de ça, constamment présent, auprès du gouvernement, auprès des parlementaires qu'il savait tenir, malgré le peu de pouvoir que la Constitution lui réservait, et tout simplement auprès des Français qui ont eu, je vous le disais tout à l'heure, un peu trop tendance, me semble-t-il, à l'oublier.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité cet après-midi sur Europe 1, Franck, Guillaume Perrault, qui est journaliste politique au Figaro, également maître de conférences sur les institutions politiques à Sciences Po, et co-auteur avec Arnaud Folch du livre « Les présidents de la République pour les nuls », et c'est chez First Edition.
J'ai justement entre les mains les présidents de la République pour les nuls. Vous savez, c'est cette célèbre collection chez First, la collection pour les nuls. Et c'est un ouvrage d'Arnaud Folch et Guillaume Perrault. Guillaume Perrault qui est avec nous dans ce studio. Bonjour, merci beaucoup d'être venu.
Bonjour.
Alors, j'ai ouvert votre livre dans les pages 165, 175. On y parle de Vincent Auriol, bien entendu. Vous nous racontez plein de choses. Alors, la première chose que vous dites, ça tombe bien, c'est qu'avec Vincent Auriol, c'est une famille entière qui s'installe à l'Élysée. Au 55 Faubourg Saint-Honoré.
Oui, c'est une famille entière qui s'installe à l'Élysée et c'est aussi la République qui reprend possession des lieux, puisque lors de l'élection de Vincent Auriol en janvier 47, le drapeau tricolore n'avait pas flotté sur l'Élysée depuis juin 40, depuis que le président Albert Lebrun et les pouvoirs publics avaient dû quitter Paris pour fuir l'invasion allemande.
François Dorcival vient d'écrire un livre sur cette période de l'Élysée sous l'occupation et on se rend compte, malgré les efforts tout à fait louables et d'ailleurs très réussis de François Dorcival pour rendre tout ça vivant, on se rend compte qu'il ne s'est rien passé à l'Élysée pendant l'occupation en fait. Il y avait beaucoup de projets mais jamais rien d'abouti.
C'était la belle endormie et donc en janvier 1947, la 4e République s'installe enfin après une très longue période de transition et Vincent Auriol arrive avec son épouse, vous l'avez indiqué, leur fils unique, Paul.
Les deux petits-enfants
et Jacqueline Auriol, la fameuse belle-fille que vous avez
l'aviatrice.
L'aviatrice célèbre.
Alors, c'est très important de dire en janvier 47 parce que la guerre s'arrête quand même. En tout cas, Paris est libéré en août 44. La guerre s'arrête en mai 45. C'est le gouvernement du général de Gaulle, le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, jusqu'en janvier 46. Et le président Auriol ne prend ses fonctions à l'Élysée qu'un an après le départ du général de Gaulle, en janvier 47. On en veut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là ?
Eh bien, il y a d'abord eu un projet de constitution, le premier, qui a été repoussé au printemps 1946 par les Français. À l'époque, l'Assemblée constituante était marquée à gauche puisque le Parti communiste était le premier parti de France. Mmh. Et avec les socialistes, ces deux partis disposaient de la majorité absolue. Ils ont rédigé un projet de constitution qui a été jugé par 53% des Français non satisfaisant. Il y avait une Assemblée unique. Le Sénat avait été supprimé.
Donc le peuple refuse une première constitution.
Voilà. Et ensuite, une deuxième Assemblée constituante est désigné. Les démocrates chrétiens sont alors le premier parti et un deuxième projet un peu plus équilibré est élaboré.
Un peu moins à gauche, disons.
Un peu moins à gauche. Une deuxième chambre est recréée. On va l'appeler le Conseil de la République. Ça sera le Sénat un petit peu après. Le président de la République retrouve ses prérogatives traditionnelles de la Troisième République qu'il n'avait pas dans le premier projet. Il avait, par exemple, le droit de grâce ne lui était même plus reconnu dans le premier projet de constitution de la 4e République.
Alors, puisque vous parlez du droit de grâce, ça tombe bien, puisque nous sommes à une période où le droit de grâce n'est pas simplement symbolique. Et effectivement, depuis 1981 et l'abolition de la peine de mort, on a presque oublié cette fonction régalienne essentielle du chef de l'État. Mais à l'époque, le chef de l'État, en dernier recours, en ultime recours, a droit de vie ou de mort sur les condamnés à mort, si je puis dire. Or, là, étant donné les circonstances, avec tous les procès qui ont eu lieu, ce qu'on appelle l'épuration après la libération, il y a énormément de condamnés à mort qui attendent de la décision du chef de l'État. Ça aussi, vous le dites, et ça donne une dimension très singulière à sa fonction.
Absolument, il y a plusieurs centaines de condamnés à mort qui attendent les chaînes aux pieds dans les prisons, qu'un président de la République prenne ses fonctions pour qu'enfin une autorité puisse examiner le recours en grâce qu'ils ont le droit de déposer traditionnellement auprès du chef de l'État.
Donc ça, c'est une tâche très lourde qu'attend Vincent Auriol.
Ce sont des drames de conscience pour lui, il le dira, j'en perds le sommeil la nuit. Alors, il utilise assez largement son droit de grâce pour commuer en détention à perpétuité des condamnations à mort. En revanche, les personnes condamnées pour meurtre, elles, il rejette le recours en grâce. Prenons un cas célèbre de quelqu'un qui a échappé au peloton d'exécution grâce à lui, c'est Jacques-Benoît Méchain, qui avait été membre du gouvernement de Vichy. Sa chance, si j'ose dire, a été qu'il a été jugé assez tardivement lors des procès de l'épuration, et Vincent Auriol avait pris ses fonctions et il a accepté de commuer sa peine en détention à perpétuité. Puis finalement, il a bénéficié d'une loi d'amnistie 5-6 ans après environ.
Ah, ce recours en grâce, disait à l'époque Vincent Auriol, j'en ai le frisson. C'est certainement la tâche la plus difficile, la plus absorbante, la plus douloureuse de ma mission. C'est en tout cas l'une des grandes tâches qui l'attendait à son arrivée à l'Élysée. Alors, finissons peut-être sur cette arrivée avant de parler des conditions du septennat de Vincent Auriol. Il va rester 7 ans à l'Élysée. Il ne se représentera pas. Il estime que 7 ans, ça suffit comme ça. Et je crois que sa femme aussi était bien contente de s'en aller. Mais en tout cas, ils ont vraiment bien fait le travail pendant les 7 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont transformé la maison. Ils ont modernisé un Élysée qui en avait grand besoin. Depuis le président Lebrun, tout ça était resté intact depuis l'avant-guerre.
Voilà, il répétait régulièrement « Je ne veux pas être un maître de cérémonie ». il avait effectivement à l'esprit...
Le refus d'être une potiche, écrivez-vous.
Voilà, le refus d'être une potiche, en effet, il l'incarnait. Et donc, il recevait régulièrement des artistes, des membres de la société civile. Il était lié avec Louis Jouvet, par exemple. Il avait une amitié réelle avec Louis Jouvet. Il avait des rapports assez réguliers avec Chaplin. Il savait y faire aussi avec les journalistes politiques. Hein. C'est un ancien parlementaire.
Et donc, il savait y faire avec tout le monde.
Il savait y faire.
Ce qu'on appelle un entre-gens exceptionnel.
Oui, il est aussi madré. C'est-à-dire qu'il sait très bien ce à quoi il veut arriver et il a beaucoup de fermeté et de caractère derrière une apparente bonhomie. Il faut aussi dire un mot de son maître politique, c'est Léon Blum.
Et bien sûr.
Léon Blum est l'homme dont il a
qui
été...
Qui va sauter dans ses bras le jour même de son élection.
Hein. Absolument, puisqu'il a été son ministre des Finances à l'époque du Front Populaire. Et il disait, les banques, on les ferme, les banquiers, on les enferme. C'était une boutade, bien sûr, mais il avait dit ça en 1936. Et jusqu'à la mort de Léon Blum en 1950, Auriol ne prend aucune décision importante sans consulter l'ancien président du Conseil. Il fait même installer une ligne téléphonique directe entre l'Élysée et la maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas, aujourd'hui dans les Yvelines, pour le consulter plus facilement.
Vous nous dites que Vincent Auriol était madré, c'est son côté paysan somme toute. Hein. C'était un homme de la terre et du sud-ouest. Vous citez vous-même dans votre petite rubrique qui s'appelle « Dans le texte », comme ça qu'on retrouve comme une sorte de leitmotiv pendant tout l'ouvrage. Vous citez cet extrait de son journal, c'est daté de 1951. « J'ai besoin de l'air natal, appel du sol, appel de la terre. » Eh oui, appel de la terre, c'est curieux, sauf pour ma belle-fille. Il est vrai qu'elle a eu une autre joie, l'attrait du ciel. « L'appel de la terre est prenant pour les vieux, appel à la communion de la terre avec les vieux parents. Pas là-haut, mais en bas, dans le sol, c'est évidemment le signe que l'on s'approche d'eux, mais dans l'amour de la terre. »
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
De député de Muret en Haute-Garonne à président de la République sous la 4e, justement, Franck Ferrand rend hommage cet après-midi sur Europe 1. Un personnage sympathique, il s'agit de Vincent Auriol.
Une petite silhouette toujours un peu agitée, ce crâne très dégarni quasiment chauve, ses lunettes rondes hein, sur ce visage lui-même ovale, la petite moustache, il a quelque chose du français moyen finalement ce Vincent Auriol et en même temps... Quelle dignité, quelle classe, si je puis dire, quelle habitude du monde et des usages politiques, car il a vraiment une longue carrière. On n'a pas parlé de ses origines, il faut en dire quand même un mot, Guillaume Perrault. D'où venait-il ce Vincent Auriol? Il était fils de boulanger déjà.
Il était fils de boulanger, absolument. Il a des origines tout à fait modestes et rurales. Il fait ses études, c'est un enfant unique, très choyé. Il fait d'abord ses études dans des établissements catholiques. Ensuite, il fait son droit à Toulouse. Il suit les cours de Jaurès. Il est évidemment très marqué par cette figure. Et il devient avocat à Toulouse. Il défend des artisans dans des conflits du travail. Il écrit dans un journal socialiste qui s'appelait Le Midi Socialiste, qui a été lancé pour concurrencer La Dépêche, qui est le fameux journal radical. Les adversaires à Toulouse, ce sont les radicaux, c'est pas la droite. À ce moment-là, Toulouse est une ville que se disputent ces deux familles de pensée. Et il devient député en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, à sa deuxième tentative.
Je vous écoute et je me dis que certains de nos auditeurs vont s'amuser ce soir à dire, quand on leur dira que François Hollande est le deuxième président socialiste à entrer à l'Élysée, ils diront non, il y en a eu un sous la 4e République et il s'appelait Vincent Auriol.
Absolument, d'autant que vous savez qu'à l'époque, le vocabulaire qu'utilisait la SFIO n'est pas du tout celui qu'utilise aujourd'hui un François Hollande.
C'est-à-dire quelqu'un
comme Auriol disait « la classe ouvrière ». La bourgeoisie, le capital...
Oui, on est encore dans un langage marxiste, là, pour le coup.
Absolument, absolument. C'est quelqu'un qui a vécu le congrès de Tours, c'est-à-dire la scission entre communistes et socialistes en 1920, qu'il a vécu intensément. Il est resté fidèle à la SFIO, mais enfin, il garde une grille d'analyse marxiste et en même temps, il est très patriote.
Alors, c'est vrai, c'est une période très ambivalente. On est à la sortie de la guerre, c'est la reconstruction. Toute la fin du mandat de Vincent Auriol, vous le montrez, est littéralement animé, soulevé par ce qu'on va appeler le début des Trente Glorieuses, l'expression de Fourastier pour désigner ces trois décennies de croissance incroyable de la reconstruction, et en même temps, période de conflits sociaux et politiques majeurs. D'abord, le grand conflit, le bras de fer, c'est avec le Parti communiste, dont vous nous avez dit qu'à la sortie de la guerre, il est le premier parti de France.
Absolument. En fait, la situation est extrêmement tendue, socialement, économiquement, c'est presque la France année zéro. À la libération et en 1947, les Français mangent encore moins bien qu'en 1944. Le rationnement est encore plus sévère. Un quart des logements ont été détruits dans l'ensemble, au niveau du pays. Donc c'est une situation absolument catastrophique.
Tout est à refaire.
Il y a la moitié de la production industrielle qui a disparu et de la production agricole par rapport à 1939. Les adolescents, vous prenez une cohorte d'adolescents de 1945, ils ont plusieurs centimètres de moins que la cohorte de 1938 à cause de la nourriture. Donc on a oublié.
C'est un peu rachitique, comme on disait.
Voilà, donc on a oublié ça et c'est naturel. Mais enfin, la situation est extrêmement grave et sans l'aide alimentaire des États-Unis, au printemps 1946, c'est la disette, tout simplement, qui guette la France. Et donc, il y a des conflits sociaux très graves. En 1947, c'est le début de la guerre froide. L'atmosphère d'unanimisme qui règne à l'époque dans les trois grands partis, communistes, socialistes et démocrates chrétiens, se fissure. Il y a la peur de Staline, la peur de l'Union soviétique, et les communistes refusent de poursuivre leur soutien au gouvernement Ramadier, qui était le socialiste qui était président du Conseil.
On est là en 1947, mouvement sociaux majeur, d'une ampleur telle qu'on l'a oublié aujourd'hui. Mais...
Des grèves insurrectionnelles, on peut le dire. Il y a un train qui déraille entre Paris et Lille. Il y a des jours d'émeute à Marseille. Il y a des morts. Et Vincent Auriol est d'une grande fermeté. Il fait partie de ces républicains qui considèrent que quand la République est en danger, il a considéré que la République était en danger, eh bien, il faut faire preuve d'une grande fermeté. Donc, il appelle sous les drapeaux 40 000 réservistes. Les CRS sont envoyés pour reconquérir les charbonnages dans le Nord-Pas-de-Calais, un à un. Des mesures extrêmement strictes sont prises contre les piquets de grève et la grève est jugulée à la fin de l'année 47.
Alors ça, c'est la lutte contre les communistes, si je puis dire. Et puis de l'autre côté, il y a un bras de fer avec le général de Gaulle lui-même qui est en train de créer son propre parti politique.
Absolument. Il connaît bien le général de Gaulle puisqu'il l'a côtoyé à Alger dans l'Assemblée consultative.
Alors ça, c'est la raison pour laquelle, j'ouvre pardon cette parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle il disait tout à l'heure qu'il était allé en prison, puisqu'il fait partie des 80 seulement, les 80 maigres parlementaires, si je puis dire, qui, en juillet 1940, ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et du coup, il a été emprisonné dans un premier temps, puis détenu chez lui en résidence surveillée.
Absolument, absolument, tout à fait.
Ensuite, France. Il a rejoint le général de Gaulle à Londres,
il a réussi,
puis à Alger.
Voilà, à prendre un avion, Londres, Alger, et ensuite il s'est vite rendu indispensable au général, parce que le général n'aimait pas la politique aérie, comme il disait. Or, Vincent Auriol, c'était toute sa vie, c'était un conciliateur
c'était
né.
C'était un homme de la politique aérie.
C'était un homme de la politique aérie. Il est donc devenu l'intermédiaire entre la SFIO et de Gaulle, et de Gaulle avait besoin du soutien de la SFIO pour s'affirmer face à Giraud, à Alger, en 43. C'était important pour lui, le soutien de la SFIO. Ce n'était pas du tout secondaire à ses yeux. Et lorsque de Gaulle claque la porte en janvier 1946, Auriol le connaît donc bien. Et pourtant, en 1947, il va être très marqué par la virulence des propos de Gaulle contre lui, Auriol. Il y a des municipales en 1947. Le Rassemblement du peuple français,
le RPF,
est lancé à ce moment-là par de Gaulle cette année-là. Et les gaullistes obtiennent 40% des voix aux élections municipales, les communistes 25% à ces mêmes élections. On a donc 65% des voix.
Revirement de l'opinion française à ce
voilà.
moment-là.
Donc 65% des voix pour les opposants au système, comme disait le général de Gaulle, puisque lui est déjà à l'époque employé cette expression. Et il exige qu'Auriol provoque des élections législatives anticipées avec une dissolution. Et Auriol refuse et en privé, il dit de Gaulle est cinglé.
Et néanmoins, il le soutiendra 10 ans plus tard, en 1958, lorsque le général de Gaulle fonde la Ve République. Parmi ceux qui le soutiennent et qui ne le soutiendront qu'un temps, puisque ça ne durera que 2 ans, il y aura Vincent Auriol. C'est un soutien conditionnel, mais c'est un soutien quand même qu'apportera Auriol à de Gaulle. Toujours cette idée républicaine de l'ordre et de la défense de la République, finalement, c'est ça. Alors, il reste bien des sujets à évoquer concernant Vincent Auriol. On y vient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec Guillaume Perrault, nous évoquons donc la figure un peu oubliée du premier président socialiste français, qui n'était pas François Mitterrand, mais bien Vincent Auriol, élu en janvier 1947 par cette nouvelle assemblée pour ce nouveau régime, celui de la 4e République, qui ne va pas tenir très longtemps, mais qui tient en partie grâce à la fermeté dont ce premier président a su faire preuve. Il a d'emblée rééquilibré des institutions qui étaient peut-être un peu trop parlementaires, Guillaume Perrault.
Oui, surtout son problème, c'est qu'il a face à lui une double opposition, donc très virulente, les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre. Et donc, les partis qui sont entre ces deux partis radicaux sont contraints à des gouvernements de coalition. et ils n'ont peut-être pas grand-chose entre eux.
Des gouvernements qui souvent durent pas très longtemps.
Ça, c'est à peu près 7 mois en moyenne, la durée de vie d'un gouvernement sous la 4e République. Mais souvent, on prend les mêmes et on recommence.
Oui.
D'où cette lassitude que l'opinion va éprouver à un moment. Mais dans ces gouvernements dits de troisième force, vous avez des socialistes, vous avez les amis de François Mitterrand dans un petit parti charnière de centre-gauche, vous avez les démocrates chrétiens et vous avez une droite classique qui est les indépendants. Et Auriol est si conscient de la précarité de la situation qu'il va choisir de pousser un homme de droite classique pour faire pièce au général de Gaulle. Et c'est comme ça qu'on a l'invention de Monsieur Pinet.
Monsieur Pinet, alors vous en faites un grand encadré dans votre ouvrage. Ça a été un homme, même s'il est, alors lui, d'une discrétion presque fantomatique, ça a été un homme important, un des pivots de ce régime, de cette 4e République, Antoine Pinet.
Oui, d'abord, au plan tactique, la manœuvre réussit parfaitement, puisque des députés gaullistes votent...
Il est le président du Conseil de mars à décembre 1952.
Absolument. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il ait laissé un tel souvenir dans la mémoire collective, alors qu'il ne tient même pas un an. Et pourtant, M. Pinet, c'est le symbole de la France, de la bourgeoisie de province, économe, discrète, patriote...
De la monnaie solide,
de la monnaie solide, le bon sens avant tout, disait-il, l'homme au chapeau rond, le blessé de la guerre de 14, puisqu'il avait été blessé au bras en 1914 et qu'il avait failli être amputé avant de sauver son bras par miracle. Et finalement, Auriol va très bien s'entendre avec Pinet. Ils vont former un duo qui va vraiment sauver, en particularité, vous l'avez indiqué Franck, la solidité du franc, parce qu'il y avait une inflation énorme à l'époque. C'est tout à fait une autre France, mais il y avait une inflation qui était extrêmement élevée à ce moment-là. Et l'arrivée de Pinet, on peut dire, ça ruine les espoirs de De Gaulle de revenir au pouvoir rapidement.
On connaît cette anecdote d'Antoine Pinet, ce présentant à la porte, à la grille de l'Élysée, parce que le président l'avait convoqué très tôt pour le voir justement dans la perspective de le nommer président du Conseil, et que le service de sécurité refuse même de faire entrer, parce qu'il a l'air d'un passant qui se prend pour le futur président du Conseil. Il était l'homme de la rue porté au sommet des institutions, en quelque sorte.
Monsieur tout le monde, et ça va contribuer en effet à son succès, puisque finalement, tout le monde va avoir le sentiment d'une revanche des petits contre les gros, ce qui est aussi un ressort de la psychologie nationale.
Alors, la reconstruction, ces grands mouvements politiques entre le Parti communiste et le nouveau RPF du général de Gaulle, création d'une économie nouvelle, soutenue, nous l'oublions pas, par l'Amérique, avec aussi toute l'initiative de défense, la CED, la Communauté européenne de défense, grand projet.
Et si vous permettez, le plan Marshall, Auriol le soutient de
plan Marshall américain, donc.
Auriol le soutient de toutes ses forces. L'entrée de la France dans l'OTAN, même chose. Hein, les socialistes étaient très atlantistes à ce moment-là, donc ils trouvaient excellent que la France intègre l'OTAN. En revanche, il est hostile à la Communauté européenne de défense, qui est un peu plus quelques années après, puisque ça aboutira à un rejet en août 1954. À ce moment-là, il n'est plus président depuis quelques mois. Il est hostile à la Communauté européenne de défense parce que c'est un projet de création d'une armée européenne. Et lui, qui est un jacobin patriote très ombrageux là-dessus, ne peut pas admettre l'idée ou le risque que la France et l'Allemagne soient sur un pied d'égalité au plan militaire.
Le dernier aspect qu'on n'ait pas évoqué pour ne parler que des grands sujets, bien entendu, c'est l'aspect de la décolonisation. Vincent Auriol est le président de la guerre d'Indochine, quand même.
Absolument, il soutient la guerre d'Indochine de bout en bout au cours de son septennat.
Il a une conception très spécifique du colonialisme, hein, qui est un peu l'ancienne conception de Jules Ferry, pour le coup.
Tout à fait.
C'est d'actualité aujourd'hui.
Ça peut paraître étrange aujourd'hui à des jeunes gens, mais à l'époque, Vincent Auriol et les socialistes de sa génération se considèrent comme les héritiers de Jules Ferry. Ils sont très fiers de la colonisation française. Il a écrit dans un livre « Des soldats courageux, administrateurs remarquables ont créé une œuvre qui est la gloire de la Troisième République ». C'est ce qu'il écrit. Donc il ne veut pas lâcher l'Indochine. Et si vous me permettez, il y a un autre aspect, je crois, Franck, qui est que la France a été victorieuse en 1945, mais enfin de justesse. Et donc, pour cette génération de Français, garder l'Empire, c'est la preuve qu'on est encore une grande puissance. Donc ils vont se cramponner à l'Empire, même si ça s'appelle Union française désormais, parce que c'est la garantie d'un statut, d'un rayonnement international de la France à leurs yeux.
Bientôt, le président Auriol va donc céder la place au président René Coty, à Madame Coty. Il aura finalement très bien rempli sa fonction et il aura donné, malgré la place assez limitée que la Constitution de la 4e République reconnaissait au président de la République, il aura su donner à cette fonction présidentielle un prestige qui est déjà presque le prestige de la présidence de la 5e République. Il y a déjà du général de Gaulle dans cette présidence-là.
Il y a une présidence beaucoup plus affirmée, beaucoup plus active.
Que sous la troisième.
Que sous la troisième, absolument. C'est donc une transition. On ne peut pas mettre sur le même plan la quatrième république et la troisième république pour ce qui est du rôle du président. Et effectivement, il y a une injustice de la mémoire collective.
C'est vrai, hein.
À l'égard de Vincent Auriol et puis de son successeur, qui sont considérés comme des maîtres de cérémonie qui n'ont pas fait grand-chose, qui ont inauguré les chrysanthèmes, comme dira le général de Gaulle avec condescendance. Je trouve que c'est injuste et qu'ils ont bien servi la France eux aussi.
Ce qui est certain, c'est que quand Vincent Auriol et son épouse quittent l'Élysée, ils sont bien contents. Il y a même un journaliste qui dit « Le président a le sourire d'un écolier à la veille des vacances », dit-il en accueillant le président René Coty.
Oui, alors il a écrit un très long journal qui aujourd'hui fait le bonheur des historiens, qui s'appelle « Le journal d'un septennat », qui est une lecture exquise et qui renseigne aussi sur les moments de presque dépression que Auriol a pu connaître lors de son septennat. Donc tout n'était pas rose, même pour le président de la République.
Vincent Auriol, le président à la papa, c'est le titre de votre chapitre. Et le suivant, René Coty, ce sera le président d'OSS 117.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge on partageait mon bonheur.
Douce France, Charles Trenet sur Europe 1. Et on vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui.
Alors Guillaume Perrault, je ne voudrais pas vous laisser repartir sans évoquer les autres présidents, parce que votre « Les présidents de la République pour les nuls », donc chez First, c'est une sorte de manuel pour ne rien oublier de ce qu'ont été tous ces présidents. Alors d'abord, première chose, et c'est une question que je me suis moi aussi posée dans la perspective de cette émission qui sera diffusée demain soir sur France 3, vous savez, c'est promené dans l'histoire de l'Élysée, est-ce qu'on peut mettre tous les présidents sur le même plan? Nous avons, nous, sous la Ve République, des présidents qui sont de vrais gouvernants, qui sont à la tête, au sommet des institutions et qui sont le cœur même, le cœur vibrant du pays. Évidemment, sous les 3e et 4e républiques, ce n'était pas tout à fait le cas. Le chef de l'État avait une fonction nettement plus protocolaire, disons-le.
C'est vrai, et c'est par réaction, naturellement, au précédent de Louis-Napoléon Bonaparte,
évidemment,
qui fait un coup d'État le 2 décembre 1851 et qui va devenir Napoléon III après avoir été le premier président de la République élu au suffrage, très bien élu d'ailleurs.
Au suffrage universel masculin, précisons maintenant. Ça m'amuse, il y a encore 10 ans, on disait élu au suffrage universel, puis maintenant on précise au suffrage universel masculin, ce qui prouve que le féminisme fait quand même des progrès chaque jour dans notre société.
Et pour donc répondre entièrement à votre question, Franck, sous la Troisième République, c'est tout à fait exact ce que vous précisez. Néanmoins, ils ont tous joué un rôle. D'abord, c'est une autorité morale. Le regretté Félix Faure, qui est mort dans les conditions que l'on sait.
Dans les bras de sa maîtresse, disons-le.
Voilà. Eh bien, c'est aussi l'homme à qui Zola lance son fameux j'accuse. C'est-à-dire que c'est une lettre ouverte au président de la République. Et non pas au président du Conseil.
C'est-à-dire que ça reste quand même la boussole, ça reste la clé de voûte des institutions, ce chef de l'État.
Oui.
Même s'il n'a pas un rôle quotidien très important, surtout sous la Troisième République, puisqu'on a vu qu'avec Vincent Auriol, sous la Quatrième, tout ça change un peu. Mais sous la Troisième, même si le président n'a pas de rôle effectif, il reste le symbole de l'État.
Oui, et pendant la Première Guerre mondiale, il va même jouer un rôle bien plus important.
C'est Raymond Poincaré, en l'occurrence.
Poincaré, c'est lui qui invente la formule « Union sacrée » en 1914, et c'est aussi lui qui va jouer un rôle d'ailleurs controversé dès cette époque-là, dans le feu vert des pouvoirs publics à certaines grandes offensives comme le chemin des dames. Il y aura toujours des controverses sur le rôle respectif du président du Conseil et du président de la République dans les grandes offensives de la Première Guerre mondiale. Donc là, vraiment, dans ce qui est le régalien pur, c'est-à-dire la guerre, et le président retrouve un rôle, hélas, de premier plan.
Nous avons vu qu'en 1920, l'ancien président du Conseil, Clémenceau, le père la victoire, celui qui pensait avoir gagné la Première Guerre mondiale, n'a pas pu être élu président de la République. On lui a préféré Paul Deschanel. Ça a été pour lui un énorme regret, ce qui prouve que cette fonction présidentielle restait plus que prestigieuse. Elle restait effective, sinon Clémenceau ne s'y serait pas intéressé.
Absolument. Et en outre, on pouvait, quand on avait été président de la République, redevenir président du Conseil dans certaines circonstances, si l'intérêt du pays l'exigeait. Raymond Poincaré est redevenu président du Conseil pour sauver le franc dans les années 20. Gaston Doumergue.
Alors Doumergue, on va le chercher, lui, dans sa retraite, en
voilà.
fait.
Hein. Après l'émeute du 6 février 1934, pour faire un gouvernement d'union nationale. Donc il y a ces deux exemples montrent bien que ce n'était pas une retraite irréversible d'avoir été président de la République.
Ce qu'on oublie parfois, ce sont ces présidents qui sont morts en fonction. Il y a eu quand même Sadi Carnot, il ne faut pas l'oublier, en 1894, et puis en 1932, le président Paul Doumer.
Absolument, un président martyr puisqu'il avait perdu ses quatre fils à la guerre de 14. Ça a été une des raisons, parmi d'autres, de son élection à la présidence de la République. Caton l'Ancien, disait-on, tant il avait l'air austère.
Merci beaucoup, Guillaume Perrault. Je rappelle que vous êtes avec Arnaud Folch, l'auteur des Présidents de la République pour les nuls, aux éditions First, bien entendu. On est, que voulez-vous, en ce moment, en pleine semaine présidentielle.